Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir, avec la participation de Lélie Anvar, réalisée par Didier Lagarde, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Marie-Thérèse Ferrand. Aujourd'hui, je reçois Philippe Cornu pour parler de la mort comme miroir de la vie dans le bouddhisme tibétain. Philippe Cornu, bonsoir.
Bonjour.
Vous êtes président de l'Université bouddhique européenne, enseignant à l'INALCO, au Langzhou, à Paris, et traducteur de nombreux textes tibétains. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages de référence sur le bouddhisme, dont le Dictionnaire encyclopédique du bouddhisme, publié en 2006 aux éditions du Seuil. Alors nous vous recevons aujourd'hui avec beaucoup de plaisir pour parler d'un livre très important que vous venez de publier, enfin de traduire. C'est le fameux Livre des morts tibétains. Alors qu'on connaît, ce nom est assez connu depuis effectivement la traduction d'Evan Vance au milieu du XXe siècle. Et puis il y a eu de nombreuses traductions de ce Livre des morts tibétains et vous apportez une traduction totalement nouvelle, complète. Vous allez nous expliquer d'ailleurs en quoi elle diverge d'autres traductions. Donc c'est publié chez Buchez-Chastel, ça vient de sortir, et donc ce livre est attribué à Padmasambhava. On va peut-être commencer par ça, parce que moi j'avais toujours cru comprendre qu'en fait on ne savait pas vraiment qui était l'auteur de ce livre, c'était une compilation de plusieurs choses, et qu'il était attribué à Padmasambhava, dont vous allez nous dire qui c'est, mais que c'était probablement fictif. Alors dites-moi ce qu'il en est.
Alors c'est l'attribution à Padmasambhava, ça reste effectivement, de fait, une attribution. C'est, disons, l'attribution traditionnelle. Selon le bouddhisme tibétain, Padmasambhava, au 8e siècle, qui est un maître tantrique qui serait venu du nord-ouest de l'Inde, aurait fondé le premier grand temple de Samye au Tibet et laissé un certain nombre de disciples et enseigné de nombreuses années en cachant ses enseignements à différents endroits sous forme de textes trésors. Et cette tradition veut que ces textes soient par la suite retrouvés par des réincarnations de ses disciples auxquels il a confié ces textes. Et c'est le cas, disons, dans la tradition, toujours bien sûr, de Karmalingpa, qui est le découvreur en fait, du livre des morts tibétains à la fin du XIVe siècle. Alors ça, c'est la tradition. Bien entendu, on peut remettre en question cette tradition. Néanmoins, on peut dire qu'il y a quand même une certaine unité d'enseignement dans l'école Nyingmapa, à partir du 8e siècle, qui se prolonge dans les siècles suivants, à travers ces textes trésors notamment, qui régénèrent un petit peu la vitalité de l'enseignement. Ils sont considérés comme étant des textes qui revivifient la tradition, la longue tradition orale qui, elle, peut subir des pertes au niveau des vicissitudes historiques. Et donc, on considère que c'est une sorte de créativité, si vous voulez, au cours des siècles, qui se manifeste à travers des gens qui ont des révélations et qui rajoutent cette littérature à la littérature canonique, qui, elle, évidemment, est une littérature transmise de maître à disciple sans aucune interruption.
D'un point de vue d'historien des religions, évidemment, c'est un peu suspect parce qu'on voit ça dans toutes les religions. C'est le cas des évangiles apocryphes, par exemple,
bien
où
sûr.
On sait qu'ils ont été écrits 3-4 siècles après la mort du Christ. Ils sont attribués à des apôtres, ils sont attribués à Pierre, à Judas. C'est une manière de leur donner une légitimité beaucoup plus grande. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est le même procédé, tout simplement?
Si, d'autant plus que dans le cas même particulièrement du Bardo Todol, du livre des morts tibétains, on voit bien, en faisant l'étude vraiment de l'origine des textes, qu'il y a des textes antérieurs au Bardo Todol. Par exemple, il y a un tantra qui date probablement du XIIe siècle, qui fait partie du canon propre au Nyingmapa et qui a servi de matrice pour produire les textes du Bardo Teudel, enfin les textes centraux. Et par exemple, on retrouve même quasiment des copier-coller en fait de ce tantra antérieur dans le Bardo Teudel. Mais c'est très fréquent, effectivement. Alors, pour les Tibétains, ça pose aucun problème, dans le sens, pour eux, c'est normal qu'on trouve des textes plus anciens cités dans le Bardo Teudel, parce que, justement, c'est simplement des preuves scripturaires que c'est dans la ligne, en fait, de l'enseignement.
Oui, ce qui compte, c'est qu'il y ait une cohérence, une transmission.
Tout à fait.
Alors, sur le nom lui-même, maintenant, donc, il y a la question de l'auteur, il y a la question du titre. On a traduit le livre des morts tibétains, une expression tibétaine qui est Bardo Teudel. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Qui veut dire, enfin, Bardo Teudel, Chemmo même, ça veut dire la grande libération par l'audition dans les états intermédiaires.
Alors, c'est effectivement moins marketing.
Voilà, exactement. Et puis, bon, le titre choisi au départ par Ivan Sven, c'est effectivement... a tellement fait souche qu'il est devenu...
Et vous savez qu'il l'a choisi parce qu'il faisait écho au livre des morts égyptiens.
Exactement.
C'est qu'il y avait une traduction un peu de temps avant du livre des morts égyptiens, on a fait le livre des morts tibétains.
Il connaissait le marketing, disons. En plus, si vous voulez, il y avait aussi ce souci peut-être en tant que théosophe de comparer ces textes un peu en miroir, alors qu'en fait, ils n'ont pas grand-chose à voir entre eux.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le mot bardo, justement ?
Alors, bardo, ça veut dire... littéralement état intermédiaire, transition, état de passage. Et ça désigne en fait un état de passage où l'esprit d'un être se trouve dans une situation de perception particulière. Par exemple, on peut dire que les perceptions que nous avons dans le rêve ne sont pas celles que nous avons dans la veille.
Dans le rêve, c'est un état de bardo.
C'est un état de bardo particulier, de même que l'état méditatif, puisqu'on rentre dans une dimension de recueillement méditatif qui n'est pas... le flux de pensée habituel de notre esprit au sens ordinaire, à l'état de veille. Et de même, évidemment, au moment de la mort, il y a d'énormes modifications que subit la conscience du fait de la perte du support physique et qui fait que les états post-mortem sont des états véritablement particuliers avec leur propre mode de perception qui n'ont plus rien à voir avec le mode de perception qu'on a avec un corps physique pendant cette vie.
Donc ce qui montre que pour les Tibétains, la mort est un passage comme un autre, plus important, enfin,
exactement.
On va en parler bien sûr, mais c'est un passage, ce n'est pas une fin évidemment.
Non, et puis c'est l'idée d'une impermanence toujours renouvelée, et en fait quand on parle de conscience, il faut se méfier de ne pas associer l'idée de conscience dans le bouddhisme à une sorte d'âme qui passerait de vie en vie, comme une sorte de réincarnation. Là, non, ce sont des renaissances, on pourrait dire d'une série psychique, d'un flux qui est en constant remaniement, qui n'est jamais exactement le même. Donc par exemple, ce qui renaît n'est ni le même individu, ni quelque chose de radicalement différent. C'est-à-dire qu'il y a une modification, mais en même temps c'est un flux. C'est un flux psychique dont chacun des éléments est lié par une relation de conditions. C'est-à-dire qu'il y a des conditions antérieures qui provoquent les états d'esprit ultérieurs, etc. Et donc il y a évidemment une continuité entre les états d'esprit, mais en même temps des modifications constantes.
Mais comme on le vit dans la vie déjà, il y a une continuité, une discontinuité. Mais est-ce que, pour les Tibétains, est-ce que dans ce passage particulièrement important de la mort vers une nouvelle naissance, est-ce qu'il y a une continuité ou une discontinuité de la conscience de l'individu ?
Il y a une discontinuité des éléments de perception habituels, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la conscience des sens a été complètement bouleversé par la destruction du corps physique, mais il y a une sorte de corps mental qui se manifeste dans l'état intermédiaire après la mort, qui fait qu'il y a à nouveau des perceptions comme si on avait des sens, mais évidemment les perceptions sont radicalement différentes de celles de la vie.
Est-ce que l'individu perd la conscience qu'il a de lui-même ? C'est-à-dire ce qui fait qu'aujourd'hui on se sent un individu différent les uns des autres, c'est qu'on a une conscience de soi.
Oui.
Et cette conscience de soi, même dans la maladie, même dans des épreuves, on garde cette conscience de soi. Est-ce qu'on la perd au moment de la mort ou pas ?
Alors, on peut la perdre au moment d'une courte inconscience qui se produit juste à la fin du processus de mort. Et à ce moment-là, si on ne reconnaît pas en fait l'état véritablement le plus profond de notre esprit, on tombe dans l'inconscience. Là, il y a une sorte d'inconscience. Mais quand on se réveille de cet état, c'est toutes les habitudes qui étaient dans l'esprit qui refluent et qui se remettent, qui se manifestent à nouveau. Donc en fait, les habitudes de s'attacher à un moi reviennent au galop. En fait, si on loupe l'occasion de découvrir vraiment l'aspect universel de notre esprit, toutes les petites habitudes ordinaires reviennent, et c'est là justement que la mort devient un miroir de la vie, parce que selon ce que l'on a produit, ce que l'on a créé comme acte, etc., tous nos présupposés, toutes nos émotions habituelles, etc., eh bien, c'est ça qui va conditionner le devenir de la conscience par la suite. Et donc, on se retrouve effectivement avec un individu qui se sent menacé par tout un tas de perceptions qu'il croit extérieures à lui, alors que ce sont des manifestations de sa propre conscience, et qui va essayer de trouver un refuge. Et c'est en trouvant un endroit où s'abriter que, manque de peau, c'est la porte d'une nouvelle renaissance.
Oui, on va y revenir parce que c'est au cœur du sujet, mais je voudrais déjà qu'on passe un peu plus de temps sur qu'est-ce qui renaît, parce que là, on est devant un problème extrêmement complexe. Ce problème n'existe pas dans l'hindouisme, dans lequel c'est la même personne qui renaît, c'est le même esprit, si vous voulez. Oui. Donc, c'est, voilà, on a un soi qui va avoir une série d'existences, et donc, d'une certaine manière, il y a une continuité d'identité de la personne. Alors Exactement. Que dans le bouddhisme, et c'est ce qui fait une des grandes différences entre le bouddhisme et l'hindouisme, c'est qu'effectivement il n'y a pas véritablement de continuité, puisque on nous dit que l'identification à un soi est illusoire.
Tout à fait.
Et donc on se pose toujours la question lorsqu'on parle des vies antérieures, mais est-ce que c'est la même personne? Est-ce qu'il s'agit de...
Si on dit est-ce que c'est la même personne, non, ce n'est pas la même personne. Et en même temps, il y a quand même une certaine continuité des états d'esprit qui se succèdent les uns aux autres dans un courant psychique individualisé. Donc on peut dire que c'est c'est comme je disais, c'est ni la même personne, ni une personne radicalement différente. Et d'autre part, il faut penser, peut-être la meilleure analogie qu'on peut trouver, c'est celle d'un fleuve. Un fleuve, on lui donne un nom. C'est jamais la même eau qui coule.
Et pourtant, on ne donne jamais deux fois dans le même fleuve.
Exactement. Hein, ouais. Et puis d'autre part, ce fleuve, il peut passer une frontière. Il va peut-être changer de nom. Alors c'est une convention, si vous voulez. Il va s'appeler le Rhin d'un côté, Das Rhein de l'autre. Bon. D'accord, mais c'est quand même le même fleuve, mais en même temps, ça ne change rien, son contenu est toujours différent. Et il peut charrier, par exemple, des débris, des choses comme ça, qui va emporter de l'autre côté du fleuve. Eh bien, en fait, le courant de conscience, c'est un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il emporte avec lui, en tant que continuité? Il emporte tous les résidus affectifs, tous les conditionnements que nous avons créés par nos habitudes mentales de la vie passée. Et c'est ça, en fait, même qui est la force motrice de ce courant de conscience. Maintenant, si on demande si c'est le même individu, ben non, parce que même d'un instant à l'autre, on n'est pas exactement le même. On change à chaque instant.
Oui, mais ce qui fait l'unité, je suis d'accord, mais ce qui fait quand même le sentiment, alors peut-être illusoire, d'unité, c'est la conscience qu'on a de soi-même.
Oui.
Qui fait que des choses changent en nous, notre corps vieillit, nos cellules se transforment, nos idées évoluent, nos convictions aussi, nos sensations. Et en même temps, il y a une histoire qui nous relie de la naissance jusqu'à la mort, qui est liée à la perception que l'on a d'être ce même individu qui
Tout
a grandi.
Fait. Et ça, c'est le cœur de l'illusion pour le bouddhisme. Et c'est ça qui nous maintient précisément dans le flux des renaissances. Hein ? Et précisément, c'est parce que ça ne disparaît pas pour un individu qui n'a pas travaillé sur cet aspect-là qu'on est poussé à renaître parce que finalement, ce qu'on appelle le karma, qui est la force motrice en fait, c'est jamais qu'une tentative tout le temps renouvelée par nos actes de perpétuer ce sentiment du moi. Et ça, évidemment, tant que c'est là en nous, tant que nous avons ce sentiment de devoir nous défendre, de devoir enrichir notre sentiment du moi, etc., par différentes expériences, eh bien, c'est cela qui nous entraîne, en fait, à accumuler de nouvelles causes qui vont produire, en fait, la propulsion de la conscience dans la vie suivante.
Voilà. Donc, c'est comme ça que se produit le processus de renaissance.
Tout à fait.
Alors, avant d'en parler, encore une fois, terminons-en avec la libération.
C'est-à-dire,
puisqu'on parle de la renaissance et que ça va être tout l'objet, justement, de ce commentaire du Livre des Morts, hein, pour comment faire pour éviter un certain nombre de mauvaises naissances ou de mauvaises renaissances.
Voire de ne pas renaître.
Voire de ne pas renaître. Alors, commençons par ça. Comment ne pas renaître? Et qu'est-ce qui... Lorsqu'on ne renaît pas, toute la question est là. Qu'est-ce qui subsiste?
Alors, il y a un texte qui nous dit qu'il n'y a pas d'esprit dans l'esprit, mais que la nature de l'esprit est clair-lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'esprit, c'est ce que nous vivons au quotidien, comme pensée, émotion, qui nous traverse continuellement et qui s'agite sans cesse. Si on regarde l'esprit dans les yeux, c'est-à-dire si on regarde véritablement son esprit à travers la pratique de la méditation, on découvre en fait que toutes les pensées qui nous animent, toutes les émotions et que nous suivons quasiment d'une manière tellement sérieuse, puisque en fait quand on est en colère, on croit que nous sommes la colère. Au moment où on est en colère, on est complètement pris par la colère. Donc on s'identifie à nos émotions et nos pensées. Et si on regarde de près, à travers la méditation, ces émotions et ces pensées, on ne trouve rien. C'est-à-dire que l'esprit lui-même, c'est un foisonnement d'expériences, mais qui n'ont pas véritablement de fond. Donc c'est pour ça qu'on ne dit pas d'esprit dans l'esprit. Et la nature de l'esprit, c'est-à-dire le fond véritable de l'esprit, c'est une claire lumière. C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est un esprit qui est à la fois vide, dans le sens où il n'est pas quelque chose d'éternel, il n'est pas un tissu éternel, il n'est pas une essence éternelle
comme
une âme.
C'est pas une âme chrétienne.
Mais en même temps, ce vide, c'est plutôt une sorte d'espace ouvert. Et dans cet espace ouvert, il y a de la présence. Il y a de la présence puisque nous pensons, puisque nous voyons les choses, puisque nous reconnaissons les choses. Et ça, c'est l'aspect de clarté. Donc en fait, c'est l'esprit dans sa véritable nature, c'est de la vacuité, clarté. Et ça, c'est indissoluble. C'est complètement, les deux aspects sont complètement indissolubles. On ne peut pas dire qu'il y a la clarté d'un côté et la vacuité de l'autre. C'est une seule et même chose.
Définissez en quelques mots la vacuité pour ceux qui
savent. La vacuité, c'est le fait d'être dépourvu d'être en soi et d'avoir une sorte d'ouverture à tous les potentiels possibles de manifestation. C'est-à-dire que tout est possible dans la vacuité. C'est un peu la notion bouddhiste de tous les possibles. Hein, cette ouverture,
c'est une radicale potentialité.
Voilà, c'est une potentialité complète. Et ça, ça serait la nature véritable de notre esprit. C'est ça qu'on appelle la nature de Bouddha. C'est-à-dire notre nature qui n'est pas conditionnée, qui est sous-jacente à tous les phénomènes conditionnés de notre esprit ordinaire, hein, qui elle-même est même à l'origine de l'énergie qui sert à faire tout notre esprit conditionné, mais qui n'est pas impliquée dedans. C'est un peu comme la lampe d'un projecteur. Vous avez un cinéma, vous regardez un film. Si vous regardez un film, c'est que vous voyez la pellicule qui se projette sur l'écran grâce à l'ampoule qui est derrière le projecteur. C'est donc l'ampoule qui est nécessaire pour que le cinéma se produise. Néanmoins, elle n'est pas impliquée dans le cinéma. Elle n'est pas impliquée dans les images qui se produisent, voyez. Et donc c'est ça, c'est cette nature-là qui n'est pas impliquée qu'on essaye de retrouver, c'est-à-dire revenir à la source de notre esprit.
Mais alors est-ce que cette source, est-ce que cette nature du Bouddha, oui, donc, qui est présente en chaque être humain, est-ce que c'est la même pour tout le monde ou est-ce qu'il y a une individualisation, une particularisation, une singularisation, je vais arriver à le dire,
oui,
une singularité, voilà, de la nature du Bouddha selon chaque individu?
C'est là une particularité du bouddhisme que de à la fois parler de l'absence de moi et en même temps de maintenir l'idée que les courants psychiques sont individuels, y compris dans leur qualité la plus fondamentale. Donc chacun a une nature d'esprit qui lui est propre, mais qui a les mêmes qualités que celles du voisin, c'est-à-dire une qualité d'éveil.
Hein? Et lorsqu'on atteint l'éveil?
C'est comme si on était des diamants dans des gangues, hein? Et quand on dégage la gangue de chaque diamant, on se retrouve avec un certain nombre de diamants. Ils ont tous la même nature de diamant, néanmoins ils sont quand même individualisés. Donc quand on atteint l'éveil, on devient un Bouddha supplémentaire. Mais on ne se fond pas dans une espèce de grand tout ou dans une espèce de grande soupe cosmique. Ça, c'est typique du bouddhisme. C'est vraiment, c'est une des marques du bouddhisme. C'est-à-dire que malgré tout, quelque part, il y a toujours l'idée que le chemin est réellement individuel et que le résultat est vraiment l'épanouissement hors condition, disons, de ce qui est véritablement la nature de l'individu. Et c'est ça qu'on appelle l'éveil.
Et lorsque, pour en revenir au livre des morts tibétains, là, que nous essayons de commenter à partir de la nouvelle traduction que vous avez faite, comment est décrit dans ce livre cette étape où, à la mort, on peut atteindre l'éveil et reconnaître la vraie nature de son esprit, au-delà de toutes les identifications au moins illusoires?
Alors, d'abord, ce n'est possible que si on s'y est entraîné au cours de la vie, c'est-à-dire à travers une pratique méditative précise.
Pour prendre de la distance et donc déjà ne pas être illusionné. Non.
Voilà, et savoir découvrir cet état naturel de l'esprit, cette claire lumière de l'esprit déjà de son vivant. Parce que sinon, c'est comme arriver à un aéroport pour aller chercher quelqu'un dont on n'a même pas vu la photo. On ne le reconnaîtra pas. Là, c'est pareil. Pour reconnaître à la mort quelque chose, il faut que ça soit déjà familier. Alors, au moment de la mort même, qu'est-ce qui se produit? Il y a une sorte de dissolution progressive de tous les éléments corporels, ce qu'on appelle la dissolution des éléments. Et donc, le corps ne peut plus bouger, les liquides s'assèchent, la chaleur se rétracte vers le centre du corps, et la respiration, ensuite, va d'être de plus en plus difficile jusqu'à s'arrêter. Ça, c'est ce qu'on appelle les dissolutions grossières. Et avec ces dissolutions grossières, le corps physique proprement dit et les sens qui accompagnent le corps se dégradent au point qu'on ne peut plus percevoir véritablement le monde extérieur. Ensuite, le processus se continue. Pour les Tibétains, ce n'est pas terminé à ce moment-là. Hein? Alors que pour nous, on est au moment de la mort clinique.
Mort.
Voilà. Et donc, il y a des dissolutions internes. Et à ce moment-là, ce sont des éléments plus subtils avec des dissolutions d'aspects plus conceptuels de l'esprit qui vont se faire. Et à la fin de ce processus, se dénude vraiment la nature ultime de l'esprit, qui est cet esprit de claire lumière dont on parle dans les textes. Et donc, c'est décrit comme le lever d'une aube extrêmement pure et où vraiment tout est complètement clair et ouvert.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission de Frédéric Lenoir, Les Racines du Ciel, en compagnie de Philippe Cornu pour parler de la mort comme miroir de la vie dans le bouddhisme tibétain. Et on reconnaît bien effectivement Philippe Cornu à ses chants. Nous sommes dans une ambiance tibétaine, même si c'est des chants que nous n'avons pas beaucoup l'habitude d'entendre, et qui sont des invocations à la divinité féminine Yeshikimamo, chantées par des lamas du monastère de Dehradun. Alors, vous venez de publier une formidable traduction du Livre des morts tibétains, le Bardo Todol, chez Buchet-Chastel. Avant de revenir sur le cours de notre conversation, hein, sur toutes les questions très difficiles, mais que vous expliquez, je trouve, avec beaucoup de clarté de ce qu'est l'esprit, les transformations de l'esprit humain, notamment au moment de la mort dans le bouddhisme tibétain, un tout petit mot sur l'originalité de votre traduction. En quoi elle se distingue des autres qui existent? On en connaît un certain nombre, oui. Déjà, même en français. Oui. Qu'est-ce que vous avez apporté de différent ou de neuf?
Alors d'abord, toutes les traductions qui existaient en français jusqu'ici étaient traduites de l'anglais. Donc il y avait quand même un problème de double traduction. Et puis des traductions qui ont été faites à des époques souvent, enfin les premières en tout cas, à des époques où il n'y avait pas de contact direct avec des lamas capables d'expliquer cette tradition d'une façon orale et précise. Et il y avait aussi, un aspect des fois un peu psychologisant de certains commentaires, etc. Et le fait qu'il n'y avait en général, en tout et pour tout, que 6 ou 7 textes qui étaient traduits du Bardo Todol, un peu le noyau dur du Bardo Todol. Or, le Bardo Todol est plus large que ça. Il faut savoir que quand on parle de livre, déjà, c'est complètement erroné. C'est une collection de textes, hein, et qui est même elle-même une sous-collection d'un cycle qu'on appelle le Karling Chitro, qui est les paisibles et les courroucés de Karma Lingpa, justement le découvreur du Bardo Todol. Et donc, ce sous-cycle est plus ou moins, effectivement, regroupe des textes, un certain nombre de textes, qui ne sont pas dans toutes les éditions en nombre identique, mais enfin, on retrouve grosso modo quand même les textes principaux dans chacune des éditions du Bardo Todol. Et donc, j'ai regardé toutes les éditions qui étaient disponibles en tibétain, et j'ai choisi de donner tous les textes représentatifs, ce qui fait non plus 6 ou 7 textes, mais une bonne vingtaine de textes qui permettent en plus de comprendre le contexte avant la mort. Parce que si on ne comprend pas les pratiques qui sont faites en préparation dans cette vie, On n'a aucune chance de comprendre ce livre des morts tibétains qui paraît parfaitement ésotérique. Alors ça donne des délires du style Timothy Leary qui en fait un guide pour le LSD, ou bien Jung qui lui-même d'ailleurs, qui par ailleurs,
il a fait un commentaire
pas l'œuvre, oui, mais Jung n'avait aucune, ne pouvait pas comprendre ce qu'était véritablement la méditation bouddhiste. Il pense que c'était une porte royale vers l'inconscient. Il n'est pas question du tout d'inconscient dans le bouddhisme, mais ce n'est pas du tout les mêmes processus qu'en psychanalyse. Donc de toute façon, on avait aussi tous ces commentaires qui étaient erronés parce que les textes étaient fragmentaires d'une part, et d'autre part, il y avait non-connaissance en fait, de cette tradition. Donc il était temps de rendre justice à cette littérature.
Voilà qui est fait et bien fait. Donc on continue de l'explication de texte un petit peu. Au fond, vous nous disiez que ce qui est évidemment le but du bouddhisme, c'est d'atteindre l'éveil, c'est-à-dire de pouvoir reconnaître la nature du Bouddha qui est en nous et de sortir de l'identification au soi qui nous maintient dans l'illusion et donc dans le cycle permanent du samsara, des renaissances. Encore un mot sur ce sujet avant qu'on passe, je dirais, à l'étape plus commune de ceux qui n'ont pas atteint l'éveil. Donc vous nous disiez que lorsqu'on pratiquait la méditation tout au long d'une vie, on arrivait à reconnaître l'esprit, c'est-à-dire à le distinguer des émotions, des perceptions, etc. Donc l'entraînement de la méditation permet d'avoir cette acuité, ce discernement de l'esprit. Et alors qu'est-ce qui se passe pour celui qui est entraîné au moment de la mort ?
Il ne reconnaît pas l'esprit de clair-lumière qui se manifeste au moment où il n'y a plus le corps qui l'entrave. Il ne le reconnaît pas parce qu'il n'y est pas habitué. Donc c'est trop pour lui. Cette espèce de clair-lumière devient une espèce de bouleversement qui fait qu'il tombe dans l'inconscience. Et quand il se réveille de cette inconscience, ce sont ce qu'on appelle les imprégnations, les propensions karmiques, c'est-à-dire en fait les résidus des habitudes antérieures qui commencent à se manifester sous la forme d'images. Et ces images sont des images en fait un peu de type onirique. De même que dans nos rêves, pour le bouddhisme tibétain, ce sont des imprégnations karmiques qui se manifestent à la conscience, hein, sous la forme d'images où on a l'impression d'être dans un lieu, dans un temps donné, avec des personnages, et alors que tout se joue uniquement au sein de notre conscience mentale. Et donc là, c'est un peu pareil, si vous voulez. C'est ce qui se produit, mais à un niveau beaucoup plus puissant et beaucoup plus déstabilisant, évidemment, parce que là, il n'y a même plus le corps physique. Donc on est dans un corps mental qui est, on dit, très léger, comme une plume soufflée par le vent du karma. Donc c'est quelque chose qui doit être assez terrifiant si on n'est pas habitué, parce qu'en fait, on est soumis, en gros, à ces projections qui prennent forme comme si elles étaient extérieures à nous et qui constituent la scène dans laquelle on évolue.
Donc chacun crée le monde dans lequel il va être, oui, avec des projections mentales, psychiques.
Exactement.
Et selon son degré d'évolution spirituelle, va être dans un monde plutôt inquiétant ou plutôt rassurant. Qu'est-ce qui se passe ?
Voilà, ça oscille entre le rêve et le cauchemar. Mais on dit que c'est souvent beaucoup plus inquiétant. Mais enfin, bon, ça dépend effectivement des habitudes passées. Hein, ça dépend de l'état d'esprit que l'on a cultivé au cours de cette vie.
Prenons le plus éveillé, celui qui a été vraiment le plus vertueux, qui a mené une existence spirituelle. Quel type d'étape il va avoir à franchir
Déjà, les images vont être beaucoup moins violentes pour lui. Et puis, il va peut-être se rappeler quand même des aspects de sa pratique, s'il a une pratique. Ou alors, on va le lui rappeler, c'est-à-dire que quelqu'un va lui lire les textes au cours de son décès, après son décès.
Voilà, c'est une question que vous me posez. Donc, ce livre, on le lit au chevet du mourant.
Voilà, c'est une des
fonctions.
C'est un des textes que l'on peut lire. C'est pour ça que c'est une grande libération par l'écoute pendant les états intermédiaires.
Donc à ce moment-là, comment appeler ça ? Vous appelez ça l'âme, l'esprit ? Qui entend une fois que
le corps est conscient mort. Ou la sphère psychique qui est donc dans ce bardeau, dans ce corps mental, dans lequel en fait on a l'impression d'avoir un corps, hein, mais sauf que c'est un corps fait de vent, fait de souffle. Hein. Donc c'est un corps extrêmement léger.
Qui continue d'entendre,
oui. Et en plus, il est dégagé de la gangue aussi, de ce corps physique dont on dit qu'il est très alourdissant au niveau de nos perceptions. Et donc, on dit qu'il est 9 fois plus sensible, en fait, à ce qu'on lui dit. Donc, si on lui donne des instructions pour se rappeler, tant soit peu de sa pratique, qu'il aurait peut-être oublié à cause du choc de la mort, à ce moment-là, ça peut revenir. Et si ça revient, il aura des effets beaucoup plus immédiats.
Donc, pour dire les choses très simplement, la conscience du mort reste présente,
oui,
Elle entend ce qui se passe dans la pièce où il est mort, donc près de son cadavre, et il peut écouter des conseils qui lui sont donnés par
Oui.
des maîtres ou des prières ou
Oui.
ou de la lecture de ce livre.
Voilà, alors comme c'est dans un contexte tantrique, on le convoque. On convoque la conscience, l'esprit du mort. On le convoque dans un support, même carrément, pour qu'il reste tranquille. Parce que le problème, c'est qu'il est extrêmement sensible à toutes les distractions possibles qui viennent de son propre esprit. Donc le problème, c'est de le fixer. Et une fois qu'il est fixé sur un support, alors là, on s'adresse à lui et on lui fait tout un rituel. Et on lui explique quelle est la nature de son esprit. On lui fait carrément des initiations, même si c'est un lama qui fait le rituel d'une façon élaborée. On va carrément lui donner les initiations qu'il n'a peut-être pas eues dans sa vie ou qu'il va, pour lui rafraîchir en fait ce qu'il avait reçu dans sa vie. Et de cette manière-là, il peut retrouver ses facultés et se ressaisir et ne pas se laisser entraîner par ses hallucinations et à ce moment-là se libérer. Donc il a plusieurs chances de se libérer. Hein? C'est un peu comme un manège avec plusieurs pompons. Si le premier n'a pas été attrapé, il y en a d'autres
Mais
possibles.
le premier, c'est dans l'existence même, c'est dans la vie, c'est avant la mort.
Bien sûr. Le
Pour le
mieux, c'est de
Bouddha, on
se...
peut atteindre l'éveil
Oui.
dès la vie. Et ce qui fait qu'au moment de la mort, pour celui qui a atteint l'éveil, il n'y aura pas de projection.
Voilà.
Il est dans la claire lumière tout de
Voilà,
suite.
ça c'est le but des pratiques tantriques et des pratiques du Dzogchen, de la grande perfection, c'est d'arriver dans cette vie même à actualiser complètement l'état d'éveil.
Et alors prenons maintenant ceux qui sont donc encore soumis à beaucoup d'imperfections, à un karma négatif, qui ont encore des choses qui alourdissent leur esprit. Donc vous nous disiez selon finalement ce qu'ils ont vécu, donc au moment de la mort, ça va être un miroir de leur vie. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Ça veut dire que les images qui vont se présenter à eux, les visions qui vont se présenter à eux, vont avoir un impact très fort, mais ce sont des images qui sont liées à leurs habitudes, à leurs tendances, à leur
Ça peut
façon de réagir
être très
habituelle.
agréable. Un homme qui a aimé les jolies femmes toute sa vie, s'il voit des jolies femmes au moment de mourir, il sera très heureux.
Oui, mais ce sont déjà des illusions en quelque sorte. Enfin, je veux dire, là, il y a un aspect projectif aussi dans la vie, mais là, les projections sont parfaitement et complètement illusoires, et elles vont l'entraîner en fait vers, par exemple, la manifestation du désir, et ça peut l'entraîner vers des renaissances qui sont liées au désir. C'est pas forcément la meilleure chose à faire.
Oui, c'est-à-dire que tout le problème, c'est que c'est un peu un piège des illusions
Tout à fait.
qui entraîne vers une matrice,
Voilà.
qui va être une renaissance dans un corps dans lequel il y aura une souffrance particulière liée à une
Voilà.
avidité, un désir.
Alors, il y a un exemple qu'on donne dans les textes. Par exemple, on dit, pour renaître, il faut désirer renaître. Alors, on se pose la question dans ces textes, on dit, mais personne ne désire aller en enfer. Alors, qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui va renaître dans les enfers, puisque les bouddhistes ont gardé leurs enfers?
Oui, qui n'a rien à voir avec l'enfer
Non, pas du tout. Puis c'est un
judéo
état
chrétien,
temporaire.
un état temporaire,
Voilà.
absolument.
C'est un état comme celui des êtres humains ou
Oui.
celui des animaux, etc. C'est un état temporaire d'existence. On donne l'exemple dans ces textes des bouchers. Vous savez que les bouchers n'ont pas bonne presse dans le bouddhisme. Et donc, on dit, bah voilà, ils vont voir leurs collègues, un rassemblement de collègues en illusion, avec des bêtes qui sont en train d'égorger, par exemple. Et comme ils sont habitués à le faire, ils vont donc aller vers le groupe de ces personnes. Et puis, en fait, quand ils arrivent à l'endroit, leur illusion se dissipe, les enfers s'ouvrent devant eux, ils sont pris de colère à cette vue, et la colère détruit leur corps intermédiaire, et ils plongent dans les enfers à ce moment-là. Voilà. Ils sont piégés par leurs hallucinations, qui sont des tendances habituelles.
Oui, donc ce sont nos
Que les
habitudes qui
bouchers me
continuent.
pardonnent, hein, je n'ai rien contre les bouchers, mais dans la tradition bouddhiste, il est vrai que...
Oui, donc c'est la poursuite des habitudes, finalement, tout
Oui, tout
simplement.
à fait.
Donc il faut s'en distancier, s'en détacher, avoir du recul pour essayer d'avoir, bon, si on ne peut pas atteindre la claire lumière et l'éveil, d'avoir une meilleure incarnation. C'est un peu ça l'idée, c'est
Bah
renaître
oui,
dans un corps où il y a moins
à
de
défaut,
danger,
voilà.
de
Alors,
régresser.
il y a aussi l'aspect de l'aspect de la dévotion qui est très important dans le bouddhisme tibétain, par exemple la dévotion à son maître, et le fait de, par exemple, avoir un lien par les pratiques qui ont été faites dans la vie avec un Bouddha particulier, avec qui on a une familiarité. Et là, à ce moment-là, on peut se tourner vers ce Bouddha et renaître dans ce qu'on appelle une terre pure.
C'est-à-dire un lieu.
C'est une sorte de construction habile des Bouddhas, en fait, une sorte de champ, une dimension qui est créée par un Bouddha pour que les êtres qui ont foi en lui, qui ont donc un lien avec lui, renaissent après leur mort dans des conditions où il est beaucoup plus facile d'atteindre l'éveil. Évidemment, la conscience qui renaît dans ce lieu, qui est une terre pure, une sorte de paradis un petit peu, mais qui n'est plus de l'ordre du samsara, donc, mais qui n'est pas non plus un domaine pleinement éveillé. C'est uniquement fait pour les êtres. Il va, disons, avoir toutes les conditions pour s'éveiller tranquillement. Voilà. C'est une sorte de raccourci qui lui permettra de s'éveiller par la suite. Donc ça, c'est, disons, la voie facile pour les gens qui ont une dévotion importante. Alors, il suffit de leur rappeler pour qu'ils se tournent vers ce Bouddha.
Oui, comme le Bouddha Amitabha, voilà. Par exemple.
Bien sûr.
Et là, on pourrait faire des parallèles un petit peu avec d'autres religions. Quand on voit que l'importance pour les chrétiens de penser au Christ au moment de la mort, etc., c'est l'idée de se relier à un être supérieur.
Bien sûr.
Pour être guidé dans l'au-delà.
Voilà.
Finalement, c'est un guide de l'au-delà, ce livre, un petit peu.
C'est un guide de l'au-delà, mais c'est aussi qu'est-ce que je fais là, maintenant ? Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Tout ce que je fais va avoir une certaine répercussion, parce que ça me forme, ça me constitue. Et mon esprit, il est constitué de... Vous voyez, en fait, dans le bouddhisme, on ne parle pas tant de l'être que du devenir, que du faire. Nous sommes un être en devenir, finalement. À chaque instant, nous forgeons les circonstances de notre futur. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir une attention particulière à tous les actes de notre existence actuelle.
Oui, parce qu'il y aura des conséquences de toute cause crée un effet.
C'est ça. Et puis l'idée de si les choses sont nos projections, et si nous... en fait notre esprit est tout le temps en projection. Si on regarde bien dans l'existence, moi je vois les gens maintenant, il y a 4 ou 5 ans, ce n'était pas le cas, mais dans le métro, les gens sont tous avec leur portable, manier leur petit machin, là, nerveusement, complètement fascinés par leur écran, mais ils sont complètement dans la projection. Alors ils ne sont même plus dans la projection de leur pensée habituelle, non, ils sont fascinés maintenant par un écran. Avant c'était la télévision. Mais c'est comme s'il fallait toujours entretenir une activité, une agitation mentale. Mais quand on voit l'agitation mentale, en fait, on ne peut pas voir véritablement ce qu'est notre esprit. Parce que c'est la surface. Et on est toujours porté vers l'extérieur.
D'où l'utilité de la méditation, d'autant plus dans les vies dans lesquelles on est, où le mental est tout le temps dispersé, agité. Ouais. Mais d'ailleurs, ça renaît. J'ai vu que le Nouvel Observateur avait consacré sa une au bienfait de la méditation. Oui. C'est quand même quelque chose qui était impensable il y a 20 ans.
Totalement.
Oui. Donc on voit qu'il y a quand même une évolution des mentalités vers la redécouverte d'un certain nombre de pratiques spirituelles ou philosophiques, comme la méditation. Alors, prenons un cas de figure plus négatif encore. Donc, est-ce qu'on peut renaître dans des formes animales, par exemple, ou dans des formes pires ? Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce qui existe de pire, finalement, pour quelqu'un qui aurait une très mauvaise vie, des pensées extrêmement négatives, de haine, etc. Qu'est-ce qui peut arriver au moment de la mort ?
Alors, il faut savoir que ces fameux mondes décrits par le bouddhisme, les 6 mondes d'existence, ce sont des scénarios projetés par notre esprit, rien de plus. Donc, en fait, nous, là, nous sommes dans un scénario humain. Bon, ça va à peu près. Il y a des moments durs, mais il y a des moments agréables dans la vie humaine. Mais c'est parce que nous sommes un peu... la vie humaine, c'est lié à un mélange, disons, assez équilibré d'émotions. C'est-à-dire que nos habitudes n'ont pas été omnibilées par une émotion négative particulière, ce qui fait qu'on est né humain, ce qui est assez rare d'après le bouddhisme. Mais par contre, si on passe son temps à s'abrutir pendant toute sa vie, l'état de stupidité qui est engendré peut faire renaître dans le monde animal, c'est-à-dire avec un corps qui correspond à l'état d'esprit qui a été engendré, tout simplement. Si c'est la violence, la colère, la haine, la torture, etc. qui a été notre quotidien, eh bien, on va renaître dans un état où nous subissons nous-mêmes notre propre karma de violence, et c'est ça qu'on appelle les enfers. Si on a thésaurisé toute sa vie avec avidité, avec un égoïsme forcené, en fait, on renaît dans un état d'appauvrissement total qu'on appelle les esprits faméliques. Mais ce sont des états, en fait, qui se cristallisent à un moment donné après la mort, en nouvel état de naissance, mais qui sont les scénarios que nous avons fabriqués. Donc, ce ne sont pas des mondes, en quelque sorte. On porte nos mondes portatifs avec nous.
Oui, mais on renaît quand même concrètement dans un corps ou dans un autre. C'est-à-dire qu'il y a une objectivité.
Mais le corps
après,
lui-même
voilà, l'esprit va se réincarner, voilà, exactement. Voilà. Mais dans telle ou telle matrice, c'est-à-dire telle ou telle femme qui est en train d'être enceinte, en fait, ça se passe comme ça. C'est que, à quel moment ça se passe, d'ailleurs ?
Au moment de la conception, donc l'être qui est dans le bardo, l'être intermédiaire, donc est attiré par quelque chose qui fait qu'il arrive sur le lieu où se trouvent ses futurs parents qui sont en train de s'unir. Alors, curieusement, il y a d'ailleurs une sorte de complexe d'Œdipe qui est carrément signifié dans ces textes, et même dans des textes beaucoup plus anciens que le livre des morts tibétains. C'est-à-dire qu'il peut concevoir de la haine pour l'un des parents et du désir pour l'autre. Donc, s'il désire la femelle qui est en train de s'unir au mâle et qu'il éprouve de la haine ou de la colère vis-à-vis du mâle, eh bien, ça veut dire qu'il renaîtra sous forme masculine. hein, et vice-versa, s'il prend un sexe féminin. Donc, vous voyez, il y a cette espèce de complexe d'Oedipe carrément au moment de la conception. Et c'est ça, ce sentiment contradictoire de haine et de désir qui détruit en quelque sorte son corps mental. Et à ce moment-là, les gamètes masculines et féminines sont en train de s'unir et ils plongent en quelque sorte, la conscience du défunt plonge dans le conglomérat qui est en train de se former.
Donc c'est dès l'instant de la conception,
oui, voilà,
pour les bouddhistes.
Ah oui, c'est clair.
Donc là, on rejoint un petit peu ce que pensent un certain nombre de religions monothéistes, à savoir que l'âme, entre guillemets, est présente très tôt.
Voilà, exactement.
Ce qui pose toute l'action de l'avortement, etc. Là, ça va loin,
ah bah,
évidemment,
tout à fait,
quand on discute de ça d'un point de vue religieux.
Le bouddhisme n'a pas l'habitude de condamner des choses, mais il va dire quelles sont les conséquences. Et donc, après, chacun prend ses responsabilités.
Donc, dans le bouddhisme, il y a une conscience présente, voilà, un esprit, voilà, qui est présent dès l'instant de la conception.
Oui. Donc, il y a mort en cas d'avortement, nécessairement, il y a mort de l'embryon.
Oui, ça, mais pas que de la matière, d'un esprit.
Pas que de la matière, voilà.
Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe, tiens, dans le bouddhisme, dans l'avortement?
Eh bien, on recommence.
Ce
malheureux dans le bardo.
Et il repart à la recherche d'une nouvelle,
voilà,
incarnation.
Voilà, tout à fait.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission de Frédéric Lenoir, Les Racines du Ciel, en compagnie ce soir de Philippe Cornu, qui nous parle de la mort comme miroir de la vie dans le bouddhisme tibétain, avec la publication de sa traduction du Livre des Morts tibétains chez Buchet-Chastel. Alors, nous passons à la deuxième partie de cette émission avec vous, Lélie Anvar. Bonsoir Lélie.
Bonsoir Frédéric.
Alors j'imagine que vous allez nous lire, on attend avec impatience, un passage du Livre des Morts tibétains.
Mais vous aurez même droit à deux passages du Livre des Morts tibétains. Parce qu'en fait, évidemment, il y a beaucoup de choses. On aurait pu, c'était un peu pour donner une idée de la variété de ces textes, puisqu'il s'agit de textes au pluriel, évidemment, et pas d'un seul texte continu. Évidemment, ce qui fait lien, c'est cette question de la mort. Et je pensais, en le feuilletant et en vous écoutant, à quel point, finalement, ça rappelle cette idée que philosopher, c'est apprendre à mourir. On voit que finalement, apprendre à mourir, c'est apprendre tout. C'est apprendre à vivre, c'est savoir ce qu'il faut faire ici et maintenant pour préparer l'au-delà, mais c'est aussi apprendre la véritable nature de l'être. Et on voit bien le lien très profond, et dans ce texte, on le voit très très bien, qu'il y a précisément entre apprendre à vivre et apprendre à mourir. C'est-à-dire les deux sont tout à fait liés. Il y a d'ailleurs des conseils de bonne vie dans ce livre, qui n'ont en apparence rien à voir avec la mort, mais vous venez d'expliquer que ça a évidemment beaucoup à voir avec l'état que l'on a dans la mort. Alors le premier texte que j'ai choisi est un texte qui a un aspect plus théorique, alors le deuxième sera plus pratique, qui est un aspect, enfin, si on veut, plus théorique, dans le sens où c'est une forme de définition de la présence, que vous traduisez donc présence avec un P majuscule, vous nous montrez qu'évidemment, on donne à cette présence beaucoup de noms. Vous avez parlé tout à l'heure de l'esprit de clair-lumière. On lui donne beaucoup de noms. Et on voit dans ce texte qu'elle est très difficile, cette présence, à définir, et que sans cesse, l'auteur va passer par le paradoxe, qui est un grand classique, évidemment, de la mystique et de la définition des choses spirituelles, de la matière spirituelle, si je puis dire, puisqu'évidemment, c'est finalement indicible. Et comme c'est un livre de l'audition, il faut quand même le dire. Donc, on va essayer de le dire. Et donc, il utilise évidemment le paradoxe. Et peut-être la chose la plus frappante dans ces définitions qui sont tentées de l'esprit, c'est qu'on en arrive à la conclusion que l'esprit est un état. Ce n'est pas une matière, ce n'est pas une chose, elle ne peut pas être circonscrite puisque c'est un état, d'où le mot de présence. C'est un être là. Voilà, c'est tel qu'on l'on est, tel que l'on se donne à être. Et évidemment, si on n'a pas compris ça, on a un tout petit peu de mal à comprendre. C'est pour ça que je tenais à bien spécifier la chose. Et voilà donc ce qui nous est dit de cette présence. Cette présence, tantôt claire, tantôt confuse, que l'on nomme esprit, en termes d'existence réelle, n'en a pas la moindre. Mais en tant qu'origine, elle est la source de la variété des joies et des souffrances, du samsara et du nirvana. Dans cette claire vacuité où les pensées passées se sont évanouies sans trace aucune, dans cette fraîcheur où les pensées à venir ne sont pas encore nées, à l'instant où s'établit le mode naturel sans fabrication, voici cette conscience qui, à ce moment, est en elle-même tout ordinaire. Et dès que vous tournez votre regard nu sur vous-même, ce regard qui n'a rien à voir débouche sur la clarté. La présence, dans son évidence nue et vive, c'est une pure vacuité qui n'a été créée d'aucune manière. Un état inaltéré où clarté et vide sont indivisibles, ni éternel puisque rien n'y existe vraiment, ni néant puisqu'il est clair et vif. Il ne se réduit pas à l'un, étant présent et limpide en toute chose. Et il n'est pas le multiple, car tout y est d'une saveur unique, dans l'inséparabilité. Telle est cette présence intrinsèque, et elle n'est rien d'autre que cela.
Philippe Cornu, donc un petit mot sur ce qu'on vient de lire, qui est votre propre traduction, je le rappelle.
Ça, c'est un des plus beaux textes en fait du recueil. C'est ce qu'on appelle une présentation à la nature de l'esprit, une présentation directe. C'est-à-dire, c'est en fait un texte que lit le maître à son disciple pour véritablement lui présenter sa vraie nature. Et son disciple doit à ce moment-là faire l'opération de retourner. Se retourner sur son propre esprit pour regarder ce qu'il y voit. Et c'est comme ça qu'en fait, il va pouvoir découvrir sa vraie nature. Ça, c'est véritablement un texte de type Dzogchen, de la grande perfection, qui est une tradition encore très mal connue en Occident. On parle beaucoup du Zen, on parle beaucoup des tantras, etc. Mais le Dzogchen, encore très méconnu. Et le Bardo Tadol est à la fois un texte qui s'appuie beaucoup sur le Dzogchen et sur les tantras. C'est un peu un mixte des deux.
Alors Lélie, on va vous avez parlé d'un second texte.
Oui, alors ce second texte est très typique de ce qu'on appelle justement le livre d'accompagnement. Et on voit très bien dans ce texte que ce sont des mots que l'on dit aux mourants ou à l'agonisant, en tout cas, ou à ceux qui sont de toute façon destinés à mourir, pour les préparer à cette mort, et évidemment les préparer aussi à traverser la terreur, puisque c'est une chose aussi, tout à fait universelle d'avoir peur de la mort. Et on voit bien dans ce texte que ce qui se prépare, c'est justement cette traversée de la peur. Ne pas savoir qu'il y a un moment de frayeur, mais en ayant préparé toute sa vie ce moment, savoir aussi que ce n'est qu'une traversée. Et ce qui est intéressant, c'est donc de se dire à nouveau, de revenir sur ce terme d'audition dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que l'on dit ça à la personne pour que son esprit, ou en tout cas ce qui va rester de lui, en soit imprégné, et qu'au moment de ce passage, cette imprégnation lui permette précisément de traverser sans trop de difficultés. Et on voit bien quand même qu'il y a une véritable conscience que c'est un passage qui amène la frayeur et la terreur. Et ça, évidemment, dans d'autres traditions, on l'a aussi beaucoup vu, que ce passage, même chez des très grands mystiques, peut prendre des figures un peu terrifiantes, et que dans d'autres traditions, c'est la prière, ici, c'est les paroles du maître. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous dit quelque chose qui vous permet de faire cette traversée. Les mots permettent de faire la traversée. Il y a peut-être aussi une importance de la parole qui est très essentielle ici. Qui est fils de noble famille, à présent ce qu'on appelle la mort est arrivé. Tu quittes ce monde et tu n'es pas le seul. Cela arrive à tout le monde. Ne conçois ni désir ni attachement pour cette vie, car quand bien même tu le ferais, tu n'as pas le pouvoir de demeurer et tu ne peux qu'errer dans le cycle des existences. Ne t'attache pas, ne saisis rien. Souviens-toi des trois joyaux. Qui est fils de noble famille, aussi terrifiante que puissent apparaître les manifestations du bardeau de la réalité qui vont émerger, n'oublie pas ces mots, rappelle-toi leur sens et va de l'avant. Tel est le point clé de la présentation. Va de l'avant en récitant ces paroles d'une voix haute et distincte et en gardant le sens de ces mots présents à l'esprit. Ne les oublie pas, car il est crucial de reconnaître assurément que toutes les apparences effrayantes et terrorisantes qui émergent sont tes propres manifestations naturelles. Qui est fils de noble famille, alors que ton corps et ton esprit se séparent, voici l'éclat brillant et étincelant des subtiles apparences de la pure réalité absolue, dont la splendeur naturelle est terrifiante. Elle émerge en un chatoiement semblable à un mirage sur une plaine d'été. N'aie pas peur, ne sois pas effrayé, ne te sens pas menacé. Il s'agit de l'éclat naturel de ta propre réalité. Reconnais-le. Du cœur de la luminosité surgit le puissant grondement du pur son naturel de la réalité qui retentit à la manière de 1000 tonnerres simultanés. Là encore, il s'agit du son naturel de ta propre réalité. N'aie pas peur, ne sois pas effrayé, ne te sens pas menacé. Il te suffit de connaître tes propres manifestations. Sache qu'il s'agit de l'état intermédiaire.
Nous terminons cette émission des Racines du Ciel sur France Culture, consacrée aujourd'hui à un dialogue avec Philippe Cornu sur le livre des morts tibétains par l'agenda culturel. Lélie, je crois que vous avez un CD dont vous souhaitiez nous parler.
Oui, c'est un CD qui est une collaboration franco-américaine. Ça s'appelle Something Real. Et en fait, ce sont des musiciens des deux côtés de l'Atlantique qui se sont réunis pour faire un CD de méditation spirituelle, en mélangeant aussi les traditions orientales et occidentales. C'est fait sous la direction d'Éric Benzi, qui vient en fait de la variété française et qui néanmoins a travaillé ici avec des grands musiciens à la fois du classique et de la musique orientale pour produire donc ce CD qui effectivement est un beau moment de méditation.
Ben, nous sommes en train d'écouter d'ailleurs en même temps.
Absolument.
On va continuer, on va rester jusqu'au générique de l'émission avec ce beau morceau. Philippe Cornu, vous vouliez nous parler, je crois, d'un ou deux livres de bouddhisme.
Oui, tout à fait, puisqu'on est dans le sujet, autant parler un petit peu de... Bah, déjà, honneur un petit peu au traducteur, je veux parler de Patrick Carré, qui a fait une très belle collection en fait, chez Fayard, qui malheureusement est arrêté, mais qui a produit quand même une bonne quinzaine d'ouvrages fondamentaux du bouddhisme, dont le Sutra de l'entrée à Lanka, qui est un grand classique du bouddhisme du grand véhicule, qu'il a traduit du chinois, et qui est un morceau d'anthologie véritablement poétique et qui explique tous les fondements vraiment du bouddhisme mahayana. C'est vraiment un excellent texte, très beau texte, une très belle traduction dans lequel on sent vraiment que le traducteur s'est complètement effacé devant le texte. Et ça, c'est quand même assez rare. Et ça, je dois dire que je lui tire mon chapeau.
Donc, Patrick Carré.
Une des plus belles traductions, je pense, je dirais, des 50 dernières années sur le bouddhisme.
Redites le nom de l'ouvrage.
Le Sutra de l'entrée à Lanka, ou Lankavatara Sutra.
D'accord. Et le deuxième ouvrage ?
Le deuxième, c'est un ouvrage, disons, qui parle de la relation difficile entre la psychologie occidentale et le bouddhisme. Dans le sens où il y a beaucoup de chassés croisés et où il y a beaucoup de difficultés à se comprendre, alors qu'en fait, on s'aperçoit bien que très souvent, faire un travail psychologique n'est pas mauvais, au contraire, et peut-être conseillé pour certains avant de s'intéresser à une spiritualité, pour avoir un terrain, disons, sain pour travailler vraiment au niveau spirituel, et qu'en même temps, la psychologie a parfois peur de la spiritualité au point qu'elle va essayer de l'écarter de son champ. Alors qu'en fait, tout cela traite de l'esprit, n'est-ce pas ? Différents niveaux de l'esprit. Donc, il s'agit d'un ouvrage de John Wellwood, qui est à la fois un psychothérapeute et un formateur de psychothérapeute depuis une bonne trentaine d'années aux États-Unis, et qui est un pratiquant bouddhiste des traditions de Dzogchen et Mahamudra, et qui donc, connaissant bien les deux aspects, a bien vu que les pratiquants souvent étaient malheureusement un petit peu en difficulté psychologique, ou que les psychologues étaient complètement sourds à toute percée spirituelle, et qui explique un peu comment on peut faire des ponts. Voilà,
très bien.
C'est un très bon livre pour une psychologie de l'éveil.
Pour une psychologie de l'éveil, on remet toujours les coordonnées des ouvrages sur le site internet de notre émission. Je signale rapidement la sortie aujourd'hui même du dernier numéro du Monde des Religions, notre partenaire. Le thème, c'est le vrai bonheur, avec, vous voyez, un beau visage du Bouddha, serein. Donc voilà, le vrai bonheur s'acquiert par la méditation, vous nous l'avez expliqué. Et puis, évidemment, de nombreux sages sont convoqués dans ce numéro. Bouddha, Lao Tzu, Confucius, Socrate, Platon, Aristote, Épicure, Coëlette, Jésus, Épictète, Mohamed, Montaigne, Spinoza, Schopenhauer. Et on voit qu'est-ce que le vrai bonheur selon ces philosophes, ces sages et ces spirituels de l'humanité. Philippe Cornu, merci infiniment d'être venu nous parler avec beaucoup d'éloquence du bouddhisme et de ce livre des morts tibétains que vous avez traduit de Padmasambhava aux éditions Buchet-Chastel. Bonsoir Philippe Cornu.
Bonsoir.
Vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine et la réécouter pendant un mois sur notre site internet franceculture.com. La semaine prochaine, je recevrai Maurice Bellet qui nous parlera du Christ et de son rapport à la violence. Demain, à la même heure, de 21h à 22h, vous retrouverez Catherine Clément pour son émission Culture de soi, culture des autres. Le sujet sera « Qu'est-ce qu'une tribu ? Qu'est-ce qu'une ethnie ?» avec Maurice Godelier. À mardi prochain, bonsoir à tous.